Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue à Marseille dans le cadre des 22e rencontres d'Averroès. Nous devions enregistrer une émission sur le thème « L'Europe s'intéresse-t-elle encore à la Méditerranée ?» Nous devions parler migration, démocratie, développement économique, échange entre les deux rives de la Méditerranée. Mais la tragédie nous a rattrapés ici aussi à Marseille. Les rencontres d'Averroès ont été annulées, mais avec quelques invités qui ont bien voulu rejoindre les micros de Carrefour de l'Europe au théâtre de la Criée, sur le Vieux Port à Marseille. Nous improvisons cette émission. Bonjour Macha Makaïev.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la Criée. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes une femme de théâtre, une femme de culture. Vous n'êtes pas une politologue, encore moins une spécialiste du terrorisme. Ce qui se passe en ce moment en France, mais pas seulement en France, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça m'inspire bien sûr une sidération, comme nous tous. Ça m'inspire aussi que ça n'est pas une chose qui nous est réservée. Je crois que la France est attaquée, mais c'est quelque chose de beaucoup plus mondial. Ça nous inspire que notre fragilité est là, mais que derrière cette émotion, il y a aussi quelque chose qui va nous obliger à nous définir, et d'une façon peut-être plus évidente, de définir nos valeurs, de définir nos efforts de solidarité, de savoir où l'on est par rapport à justement à cette autre rive et où l'on est entre nous. Donc je pense que ça va être beaucoup de pensée aussi après l'émotion, beaucoup de réflexion, beaucoup de pensée, mais ça va être aussi la réflexion sur ce que c'est qu'être empêché, sur ce que c'est qu'être silencieux. Ça nous fera l'expérience aussi de savoir ce que c'est qu'un pays où on n'entend pas les penseurs, on n'entend pas les historiens, pendant quelques heures seulement, parce qu'ils peuvent continuer dans notre pays à réfléchir et à produire des écrits. Mais c'est important de le vivre physiquement aussi. C'est quelque chose qu'il nous fallait peut-être avoir.
Je vous présente nos autres invités. Salama Kawakili, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes syrien, politologue, directeur adjoint du Centre Arab Reform Initiative et président de l'association Initiative pour une Syrie Nouvelle. En quelques mots, cette association, en quelques mots.
C'est une association qui aide la société civile syrienne émergente de s'organiser, de mieux s'organiser face aux défis de la reconstruction d'une future Syrie qu'on espère pour bientôt, malgré le pessimisme régnant.
Un peu partout, et particulièrement en ce moment en France.
Ce qui m'amène à être doublement ému en tant que franco-syrien de ce qui s'est passé hier à Paris.
Thierry Fabre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, essayiste, vous êtes le créateur des rencontres d'Averroès. Malik Haral, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, chercheuse au CNRS, vous êtes une spécialiste de l'histoire de l'Algérie contemporaine, c'est-à-dire depuis son indépendance. Alors, Thierry Fabre, la philosophie des rencontres d'Averroès, c'était de rapprocher les peuples des deux rives de la Méditerranée. Le thème que l'on avait imaginé, l'Europe s'intéresse-t-elle encore à la Méditerranée? J'ai envie de vous demander, elle s'y intéresse trop ou trop peu à l'aune de ce qui vient de se passer?
Je ne crois pas que ce soit une question d'intérêt, pour le coup. Il ne faut pas résumer à ce qui s'est passé, qui est un acte de stupeur, de guerre, au sein même d'une société. Vous voyez l'infamie que consiste à prendre des armes pour tuer des gens, souvent d'ailleurs dans des quartiers, des étudiants dans des cafés, qui eux n'ont pas d'armes. Donc c'est un acte de lâcheté et d'infamie. C'est pas un intérêt, c'est le goût de la mort. Et on est confronté aujourd'hui à une forme de nouveau nihilisme qui est lié à tout ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient. Nous sommes reliés au monde méditerranéen, pour le meilleur et pour le pire. Nous avons une histoire commune qui est très lointaine, depuis plusieurs siècles, qui s'est réactivée à plusieurs moments, dans des moments de rencontres, mais dans des moments de confrontation, de guerre, de conquête. Et nous sommes aujourd'hui, effectivement, dans une période particulièrement tragique.
Alors vous aviez initié au MUCEM, où vous travaillez, vous êtes le directeur de la programmation, une première exposition lors de l'inauguration du MUCEM qui s'appelait Le Bleu.
Le Noir et le Bleu.
Le Noir et le Bleu, j'allais dire Le Bleu et le Noir. Le Bleu, c'était évidemment la partie joyeuse de la Méditerranée. Le Noir, c'est la partie dramatique. On est dans cette...
On est dans cette polarité. Et là, c'est vrai que les révolutions arabes, au départ, annonçaient une éclaircie, et notamment en Syrie, ou en Tunisie. Mais la répression a été tellement terrible par le régime de Bachar al-Assad, qui s'est encore illustré par des propos infâmes en expliquant que c'était bien fait pour nous, quoi, que c'était le résultat de la politique française en Syrie et au Proche-Orient. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces attentats ont été revendiqués par Daesh, soi-disant État islamique, c'est que ils veulent nous faire peur. Ils veulent nous diviser, ils veulent créer de la discorde, ils veulent créer les conditions d'une confrontation, voire d'une guerre civile en France. Et bien, il faut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut se dresser et ne pas avoir peur. Il faut lutter contre la discorde et il faut... Voilà, le principe des rencontres d'Averroès était de relier les cultures entre elles. Il faut le faire plus encore. Il faut chercher de la fraternité. Parce qu'on va avoir une pléthore, ça a déjà commencé, de discours sécuritaires, de discours de très grande violence, de discours qui font que, pour avoir un nom ou un prénom de musulman, sociologique ou pas, certaines personnes vont être en danger. Mais moi, d'abord, je veux dire, la première pensée qu'il faut avoir, c'est à ceux qui ont été tués et à leurs familles, parce que c'est un moment extrêmement grave. Je crois qu'il y a peu de moments dans l'histoire de France comparables à celui-là. Donc, il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé et en même temps bien réfléchir à là où ils veulent nous amener et là où donc où il ne faut pas aller. Et il me semble que ce qu'on a essayé de bâtir depuis, c'est la 22e édition qui malheureusement ne peut pas se tenir. Il ne faut pas le perdre en chemin parce qu'on va bien en avoir besoin. Il y a un temps effectivement d'écoute, de recueillement, de silence, disait Macha Makaïef, et j'ai retenu deux termes, fragilité et nous définir. La fragilité, c'est ce qui nous rend humains, et en même temps, il nous faut une grande force pour combattre cette infamie, et nous définir, c'est effectivement la question du nous. Est-ce que c'est nous, purs européens, chrétiens, blancs, etc., ce qui va être une tentation aujourd'hui, ou c'est un nous qui permet de construire une forme de vivre ensemble, d'être ensemble, qui est une façon de ce qui existe aussi dans cette ville de Marseille, même s'il y a beaucoup de fractures, et que il faut les regarder bien en face. Donc on est à un moment, je crois, charnière de notre histoire, et on a intérêt à pas se tromper de chemin.
Salam Kabakibi, je disais rapidement en introduction, la France n'a pas le monopole du terrorisme, Londres, Madrid en Europe, mais aussi Tunis, Beyrouth, et bien sûr la Syrie tout entière, pour ne prendre que quelques exemples, ont été bien sûr des victimes du terrorisme islamique. François Hollande a parlé d'une guerre menée contre la France. Est-ce que c'est une guerre mondiale pour vous ?
Je crois que le terrorisme, dans le cas syrien, a bien commencé avec le terrorisme de l'État contre son propre peuple, avant bien que l'émergence de tout groupuscule islamique terroriste. Maintenant, bien entendu, c'est un espace ouvert, il y a tout genre de terrorisme et de résistance et de militantisme politique et militantisme sociétal, comme je viens de mentionner, une société civile émergente dont on parle très peu. Annoncer que c'est une guerre, je crois que ce groupe qu'on représente en tant que groupe très homogène, très fortement idéologisé, c'est un peu exagéré parce que quand on connaît sur le terrain la réalité de comment ce groupe fonctionne, je veux dire l'État islamique, Daesh, c'est un ramassis de voyous, de trafiquants, de perdus, des gens idéologisés bien entendu, de toutes sortes. Il y a des viols à l'intérieur de leurs troupes contre les jeunes, il y a aussi l'usage de la drogue dure, qu'ils distribuent à leurs militants ou à leurs combattants.
Plus qu'un État, vous diriez un gang islamique.
Un gang, je dirais un gang. Eux, ils veulent ajouter l'islamisme à cela. aucun... Dans le cas syrien, je parle. Bien sûr, il faut distinguer entre le cas irakien et le cas syrien. Le cas irakien, il y a une assise sociale différente. Vu l'après 2003, vu la dissolution de l'armée et des services d'enseignement, il y a, et vu le traitement de la minorité sunnite en Irak, il y a toute une histoire différente. En Syrie, il fonctionne par la terreur et la cooptation et la corruption. La corruption, c'est, ils ne sont pas corrompus entre eux, dans leur gestion, mais ils corrompent des jeunes en leur offrant des moyens, en leur offrant des armes, en leur offrant la possibilité de tuer. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui passaient des heures devant leur écran à jouer aux jeux vidéo. Maintenant, ils font les mêmes jeux sur la réalité, sur les êtres humains. Et je trouve que c'est ça le danger le plus grave, parce que c'est universel, ça peut se propager dans n'importe quelle société sans aucune assise idéologique.
Malik Haral, l'Algérie a connu dans les années 90 une guerre contre l'islamisme radical avec le FIS et le GIA. Et l'Algérie est venue à bout de cette guerre, mais à quel prix ?
À un prix qui est élevé, avec des éléments de politique qui sont discutables, et pourtant c'est probablement le seul cas de guerre remportée contre un ennemi islamiste djihadiste de cette ampleur. Et il y a des choses à apprendre. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité de résister, et de résister dans ce qui est visé par la terreur, qui est le lien social, qui est la société, qui est la solidarité, qui est le tissu qui fait que nous sommes un collectif. On a lu, entendu beaucoup de réactions, beaucoup de gens se sont téléphonés, beaucoup de gens se sont écrits, les gens se sont beaucoup inquiétés les uns des autres et se sont beaucoup dit qu'ils s'aimaient depuis les attentats. Il me semble que ce qu'il y a à apprendre de cette expérience passée, c'est que cette réaction-là de solidarité, elle va être mise au test de la durée. Elle va être mise au test de la durée lorsque les réactions d'hostilité, les réactions de racisme viendront, et elles seront très dures, et elles seront, voilà, la solidarité, la capacité de maintenir le tissu social sera mise au test à ce moment-là. Elle pourra être aussi mise au test si ces événements venaient à se répéter. Et c'est vraiment par là qu'il faut résister. C'est là qu'elle se situe, la résistance, dans la capacité de se maintenir dans le temps. Et quand bien même ces attaques pourraient venir à se répéter, être capable de se maintenir en tant que société et de maintenir ses valeurs et ses liens entre nous, y compris dans la durée.
Thierry Fabre.
Ça me fait penser justement, Malik Haral, à quelque chose qui s'est passé en Algérie, qui était assez admirable. À un moment, il y a eu des menaces très, très violentes sur les enfants qui ne devaient pas aller à l'école. Et la réaction de la société algérienne, c'est « eh ben, on va y aller ». Et ils ont canné. Et donc je crois qu'il y a je suis pas sûr que l'interruption du processus électoral et que la réaction de l'armée, etc., soit vraiment un modèle qu'il faut suivre. Mais en tout cas, de la part de la société algérienne, il y a des leçons qu'il faut tirer de rester debout. Et je crois que beaucoup de gens ont montré tout simplement, en disant il n'est pas question que les enfants n'aillent pas à l'école, alors que les menaces étaient tout à fait annoncées, directes et formulées.
Il y a néanmoins ce que vous dites est très juste, il y a néanmoins une différence assez majeure entre le contexte des années 1990 avec un pays extrêmement isolé dans sa résistance et dans la résistance de sa société et le contexte actuel qui est, et j'avais l'occasion de le dire vendredi dans le seul débat des rencontres d'Averroès qui a pu se dérouler puisqu'il intervenait avant les attentats de Paris, j'avais eu l'occasion de dire qu'à mon sens, du fait du nombre de pays impliqués, du nombre de pays dont l'existence même est en danger, du nombre de frontières menacées de devoir être modifiées, du nombre de millions de réfugiés déplacés, du nombre de morts, du nombre de pays non moyen-orientaux directement impliqués dans le conflit, qu'on avait affaire à une guerre mondiale, une guerre mondiale des Arabes si on voulait l'appeler ainsi, mais une guerre mondiale. Et donc le contexte de ce point de vue-là est Et relativement différent en termes d'échelle.
Qui prend une autre ampleur. Machin Kaev, pour rebondir sur ce que vient de dire Thierry Fabre, évidemment qu'on va continuer, les enfants des écoles vont continuer à aller dans les écoles, et il va falloir continuer d'aller au spectacle. La criée est fermée ce soir, mais elle va rouvrir évidemment lundi ou mardi.
Il y a dans toute décision quelque chose d'immédiatement contestable, même quand on la prend soi-même, et quand elle est collégiale encore plus. C'est toujours un... Thierry Fabre met le doigt sur un débat qui nous habite, qui nous anime toujours et qui nous animera de plus en plus. Je pense qu'il y a quelque chose et une valeur symbolique à se taire aussi parfois. Je pense que c'est une chose provisoire. Je pense que ça n'empêche en rien la pensée. Je pense que les penseurs génèrent là en ce moment même, ici et là, produisent, ils sont ensemble, ils réfléchissent. Qu'il n'y ait pas cette confrontation avec le public, pour nous, c'est une vraie douleur, parce que c'est notre mission même que de faire se rencontrer le public et les artistes, le public et les penseurs. Et il y a des jours où les choses sont empêchées. Je pense que c'est une expérience qui nous grandira aussi que de l'expérimenter. Je pense que plus que jamais, on a besoin de ne plus être ces enfants gâtés de la pensée, ces enfants gâtés de l'art, où tout est si facile. Tout d'un coup, moi je crois beaucoup à la puissance du silence, qui est de dire que, évidemment, c'est cette 22e édition des Rencontres d'Averroès, que quelquefois certains pourraient dire, oh, c'est pas, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Eh ben, elles sont tellement essentielles que quand un jour elles s'arrêtent, pour une journée et demie, puisqu'hier elles ont eu lieu, eh bien, ça veut dire combien leur présence et leur nécessité est criante. Et ça veut dire que la 23e, je vous le promets, elle sera puissante, forte, penser, et que surtout le discours ne sera pas dévoyé sous le coup de l'émotion, sous le coup de la communication, sur le coup de l'impact du choc qu'est cette tragédie.
Alors, déjà, vous nous dites, elles auront lieu déjà, c'est déjà...
On fera tout pour ça, et je vous promets que nous avons tous, elles auront lieu, nous sommes dans une détermination, et là-dessus, on est tous ensemble, absolument ligués, pour que la 23e édition ait lieu, et qu'elle soit magnifique.
Salam Gawakibi, ce que vient de dire Thierry Fabre et Malik Haral et Masha Makiev, c'est qu'il faut tenir.
Il faut tenir, et je souligne avec trois lignes rouges la dernière phrase, qu'il faut tenir loin de l'émotionnel et du spectacle médiatique. Il faut tenir sur le fond. Les penseurs, malheureusement, de plus en plus en France, certains penseurs, c'est un intellectuel, jouent le jeu de la rapidité et de la facilité. Ils suivent la rhétorique aussi de certains politiciens qui veulent profiter d'une situation grave, comme on l'a vécu hier à Paris, qui veulent faire un peu leur enjeu électoral ou enjeu politicien de bas niveau. Il faut que les penseurs, les intellectuels, les artistes soient vigilants sur cette récupération qui a commencé déjà. Moi, j'entends maintenant ce qui se passe dans les déclarations des différents politiciens. La récupération très, très bas niveau a déjà commencé. Et aussi la récupération internationale. Parce que maintenant, comme ça a été mentionné par Thierry Fabre, la déclaration de Bachar el-Assad concernant l'événement de Paris hier, c'est une récupération d'un régime qui est en train de tuer des centaines de milliers de Syriens.
Et qui a libéré les islamistes de ses prisons.
Et qui a libéré les islamistes de ses prisons en vue d'arriver à ce résultat. Alors, il faut pas entendre. Maintenant, il y a des élus de la République française qui visitent ce tyran sanguinaire. Ils sont à Damas et ils entendent ce discours. Le moindre responsabilité patriotique, nationale, c'est de quitter le territoire et de dire qu'on n'accepte pas quand même, dans un moment de union nationale, de telles déclarations d'un chef indigne de sa légitimité.
Salam Kawakibi, peut-être que grâce à RFI, ils vous entendent, on ne sait jamais. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières infos. On se retrouve dans 3 minutes, à tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours à Marseille, au théâtre de la Criée, en marge des rencontres d'Averroès, qui, comme la plupart des manifestations en France, a été annulée. Je vous représente rapidement les invités qui, au pied levé, nous ont rejoints ici à Marseille. Macha Makaïef, elle est la directrice du Théâtre National de la Criée. Salam Kawakibi, politologue, directeur adjoint du Centre Arabe Réforme Initiative et président de l'association Initiative pour une Syrie Nouvelle. Thierry Fabre, écrivain, essayiste, créateur des rencontres d'Averroès. Et Malika Rahal, historienne, chercheuse au CNRS, spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Algérie. Alors Thierry Fabre, les relations entre les deux rives de la Méditerranée jusqu'à cette tragédie, c'était surtout les migrants et les réfugiés, et surtout comment limiter leur arrivée. Je ferai référence par exemple au sommet de Malte qui s'est déroulé il y a quelques jours avec des chefs d'État européens, des chefs d'État africains, où la seule préoccupation en tout cas des Européens, c'était de dire comment vous pouvez garder les migrants et les réfugiés chez vous. Alors, ce qui en dit long tout de même sur l'état du délabrement des relations euro-méditerranéennes.
C'est sûr qu'on est très loin de l'horizon d'attente du processus de Barcelone qui avait soulevé quelques espoirs. Qui est né en 1995, qu'on appelle le partenariat euro-méditerranéen, et qui a malheureusement été un naufrage, et qui était un peu une réponse après la chute du mur de Berlin, un projet européen, justement pour construire des relations de proximité avec les pays du sud et de l'est de la Méditerranée, mais ça s'est englué dans des processus, disons, bureaucratiques et une assez faible volonté politique pour y parvenir. Et c'est vrai que la mer Méditerranée est devenue la mort Méditerranée, et que, au fond, pour reprendre le titre d'un poète que citait tout à l'heure Macha Makaïef, la Méditerranée c'est devenu un cimetière marin, et pas du tout dans le sens de Paul Valéry. Et ce qui est, de mon point de vue, une véritable honte pour l'Europe, parce que si on est, comme le disait le président de la République, dans une situation de guerre, on a tous dans l'image la situation des réfugiés du nord de la France au moment de et qui ont été dans les routes et qui affluaient et qu'évidemment on a accueillis partout. Alors on dit c'est dans un même pays, mais là il y a des réfugiés d'une guerre que l'on laisse mourir à nos frontières. Il y a eu un éclair d'humanité quand un petit garçon, on a vu sa photo mort sur la plage, mais c'est incohérent par rapport au projet politique des islamistes. Ce verrouillage-là, cette peur-là, j'ai entendu des gens là dire, ben voilà, on les a laissés entrer. Et on a bien vu les manifestations qui sont déroulées en Allemagne, après quelques pancartes bienvenue, Pegida, mouvement anti-islam, qui s'est manifesté en disant, on n'en veut pas, on a peur, il y a des infiltrés, alors que les gens fuient la guerre. Je crois que la question effectivement du « nous », de quel « nous » nous allons constituer en Europe, est devenue une question centrale.
Salam Kabibi, je voudrais qu'on revienne un instant sur le processus de Barcelone qui a généré beaucoup d'espoir. C'était il y a 20 ans pratiquement jour pour jour.
Novembre 1995.
15 pays européens à l'époque de l'Union Européenne et 12 pays de la rive sud de la Méditerranée, si je ne me trompe pas, s'étaient rassemblés avec la volonté de construire autour de cette Méditerranée un espace et de paix et de prospérité mutuelle. Pourquoi ça n'a pas marché ?
Ça n'a pas marché parce qu'on peut pas construire un espace de paix et de prospérité avec des corrompus et des dictateurs. C'est très utopique de penser qu'on pourra faire quoi que ce soit avec des gens comme Moubarak, Ben Ali, Assad, ainsi de suite. Il y avait une volonté de les pousser à faire des réformes. Ils n'ont même pas fait des réformes cosmétiques, de façade. Ils n'ont pas accepté. Ils voulaient tout sans rien changer dans leur politique intérieure, même au niveau des mesures de réformes vraiment très soft. Maintenant, alors parler de plus, l'Europe n'a pas donné les moyens à ses institutions, à ses instruments de fonctionner correctement.
C'est-à-dire que les Européens n'y ont pas vraiment cru non plus, ils n'ont pas financé comme ils auraient pu, comme
ils
auraient dû.
Non, ils ont financé, mais ça a financé un petit peu aussi le circuit de la corruption. Quand on voit les projets qui ont été érigés avec ce que j'appelle moi les gangos, la fausse société civile dans les pays du Sud, qui était souvent présidée par la femme du président ou la femme du roi ou le fils du président ou ainsi de suite, c'est pas la société civile. On a toujours voulu ne pas reconnaître la société civile. Et quand il y a eu des gens courageux comme Marc Pierini, qui devait être avec nous en rencontre d'Averroès, qu'il a essayé de faire des choses en Syrie, il a été presque rappelé par Bruxelles. Et ensuite, quand il a essayé de faire des choses en Tunisie, il a été aussi rappelé par Bruxelles. On voulait pas de vagues, on voulait prospérité et paix avec des corrompus et des dictateurs. L'échec est annoncé dès le début.
Et puis entre 1995, donc le lancement du processus de Barcelone, et aujourd'hui, 2015, les attentats, la tragédie en France, il y a eu tout de même, qui va vouloir répondre, le grand changement du 11 septembre 2001, qui a changé quand même tout et la perception des uns et des autres de la rive nord et de la rive sud. Thierry Fabre.
Juste un mot avant de laisser la parole à Maïk Harald. Il y a aussi un facteur qui est, le processus de Barcelone, c'était aussi lié au processus d'Oslo. Et juste après le processus d'Oslo, c'était la paix, processus de paix israélo-palestinien, israélo-arabe, et la conférence de Madrid et toutes ces initiatives qui ont là aussi ouvert un assez grand espoir. Sauf que quand il y a des extrémistes religieux, alors pour le coup juifs, ont tué Yitzhak Rabin, et ça a été un des premiers coups d'arrêt de ce processus-là, et qu'on a, le principe c'était aussi la paix contre les territoires, et que malheureusement il y a eu une reconnaissance de paix, et la conquête n'a pas cessé d'avoir lieu dans les territoires. On est aujourd'hui à 300 ou 500 000 colons supplémentaires. Donc une des clés aussi d'un processus méditerranéen, c'est de sortir de la confrontation israélo-palestinienne, israélo-arabe. Et donc là-dessus, il y a eu un nœud extrêmement violent et qui s'est encore plus démultiplié avec les attentats du 11 septembre et la politique sécuritaire. Parce que là, on a renoncé complètement.
Avec le 11 septembre.
On a renoncé complètement à l'idée de la liberté, de la démocratie. C'était, il fallait conforter les dictateurs parce qu'eux-mêmes garantissaient une forme de sécurité.
Maïk Harald.
Oui, je vais rebondir sur ce que disait Salam Kawakibi sur le regard du Sud. Vu du Sud, la chronologie est assez différente. 95, c'est le milieu de la décennie noire algérienne, je le disais tout à l'heure, un pays relativement isolé, en but à des phénomènes que l'on a connus depuis à une toute autre échelle géographique. 2001, d'une certaine façon, c'est l'exportation de cette menace aussi au pays du Nord, et du coup une prise en compte radicalement différente. On sort de ce qui avait été l'isolement algérien pour avoir une prise en compte beaucoup plus large de ce danger. Mais entre 95 et aujourd'hui, on a aussi 2011. Et on a aussi
2011, les révolutions arabes.
Les révolutions arabes, les printemps arabes, avec deux dynamiques. L'une, parce qu'on est dans un moment révolutionnaire où on a des choses extrêmement contradictoires qui se déroulent en même temps, à la fois un enthousiasme comme dans les pays du monde arabophone, on n'a jamais connu depuis les indépendances, une ouverture possible, une imagination de changement considérable, qu'aujourd'hui seule la Tunisie tient à la fois de façon extrêmement convaincante, de façon admirable et en même temps avec une grande fragilité sur une ligne très 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 étroite,
particulièrement violente
également avec les attaques, et pourtant la Tunisie tient. Voilà, il faut que la Tunisie tienne vraiment. Et
évidemment on va revenir évidemment sur la Tunisie qui symbolise l'espoir, aussi fragile soit-il. Salam Kimi, je reviens en arrière. 95, processus sur Méditerranée, un espoir. Les révolutions arabes, un espoir. Deux espoirs déçus.
Et il y aura un troisième, malheureusement, si on va réhabiliter les dictateurs, si on va reconnaître les contre-révolutions comme on fait maintenant avec l'Égypte, le troisième désespoir est en voie de se réaliser. Maintenant, on fait avec Assad ce qu'on a fait avec Franco en 45. On le réhabilite à condition qu'il combatte le terrorisme islamique, comme on a beau à dire comme s'il l'a jamais combattu. Si on regarde de près la chronologie des événements, on se rend compte très rapidement que je veux pas tomber dans l'esprit complotiste et dire que le mouvement de Daesh est une création étatique ou une création des services, mais quand même, les raisons d'être de Daesh, c'est l'existence du régime, et les raisons d'être du régime, c'est l'existence de Daesh. Maintenant, si on ne va pas comprendre qu'il faut respecter la volonté des peuples et arrêter de voir le Sud avec des angles de vue très parisiennes ou très londoniennes ou très berlinoises, j'ajoute Berlin, même si je sais que les Allemands, ils ont un regard beaucoup plus réel du Sud que ce qu'on a, nous, en France. Si on va continuer à entendre des philosophes médiatisés qui nous disent tout et n'importe quoi sur la situation dans les pays du Sud, et ne pas reconnaître les élections, ne pas reconnaître les droits des uns et des autres de se présenter aux élections, maintenant, il y a des gens qui se réjouissent des sanctions lamentables imposées aux frères musulmans en Égypte. C'est pas pour défendre les frères musulmans et leur gestion catastrophique pendant l'année qu'ils ont gouverné, mais ce qui s'est passé après, c'est un coup d'État qui a amené des militaires qui sont en train de réduire l'Égypte à une future guerre civile que le Nord, notamment l'Europe, le plus proche, va payer le prix fort.
Ce que vous êtes en train de dire, Salam Khamis, c'est que pour soigner la peste, bien des Occidentaux développent le choléra.
Il développe les choléras. Il y a même des diplomates érudits, notamment qui ont occupé des postes importants en France, qui parlent de l'alliance avec Staline contre Hitler. Comme une référence. Ils ont raté un cours d'histoire parce que Staline, c'était un homme fort, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il était à la tête d'une nation forte, une armée forte. Et quand on part Staline à Assad, on a raté quelque chose dans la logique et dans l'histoire.
Il faut bien dire un point, c'est pas le sujet de l'émission, mais Assad n'est plus aujourd'hui que l'ombre de lui-même.
Il est l'ombre de lui-même, mais cette ombre, c'est comme les jeux d'ombre que très réputés dans le Moyen-Orient ancien. C'est maintenu d'en bas et de derrière par les Russes et les Iraniens.
Il est soutenu par des acteurs internationaux, parce que à travers le diagnostic qui vient d'être fait, il y a quand même un facteur qu'on a un peu oublié aussi, qui est quand même majeur par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, qui est quand même les deux guerres du Golfe et la politique américaine. Pour commencer, comme disait mon ami Bruno Etienne, compréhension ne vaut pas adhésion. Mais la violence, il faut comprendre d'où elle vient si on veut la combattre. Or, on sait bien que quand même, le chaos en Irak, puis en Syrie, c'est-à-dire le chaos en Irak, on sait d'où il vient quand même. C'est-à-dire la dissolution de l'armée, voilà. Aujourd'hui, les plus grands soutiens de Daesh, c'est les anciens de l'armée de Saddam Hussein. Donc, il y a quand même, on est en train de payer le prix de cette violence politique, parce que on a la violence en retour. Et tout à l'heure, Macham Makaev parlait des enfants gâtés que nous sommes. Nous sommes, dans notre génération, une génération qui n'a pas connu la guerre. Mais le sud et l'est de la Méditerranée, depuis 1945, il connaît tout le temps la guerre. Et donc, il y a ce que je dirais, l'effet en retour, c'est-à-dire l'effet boomerang, l'effet de... Et effectivement, comme nous sommes dans un monde de plus en plus connecté, avec des réseaux transnationaux, qui soient pour le bien, la circulation d'informations, etc., mais qui soient aussi des réseaux mafieux ou des réseaux terroristes, on a la connexion et on a, là, deux fois, en plein cœur de la capitale, de Paris, c'est-à-dire après les attentats contre Charlie et l'hypercachère, puis aujourd'hui, les attentats dans, je sais pas, 7, 8 lieux coordonnés, on voit bien qu'il y a une entreprise de déstabilisation, d'actes de guerre. Donc là-dessus, il ne faut pas faire semblant, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Je veux dire, ce sont des actes de guerre, il n'y a pas de raison de baisser pavillon, il faut à juste titre les combattre.
Carrefour de l'Europe sur RFI.
Carrefour de l'Europe, nous sommes à Marseille au théâtre de la Criée avec Macha Makaïev, avec Salam Kawakibi, avec Thierry Fabre et avec Malika Aral. Alors, il y avait des mains qui se sont levées autour de cette table, un peu comme dans les rencontres d'AVROS, il y a des mains dans le public, là il y a un petit peu moins de monde, mais je voudrais relancer un peu le débat sur le thème aujourd'hui. Est-ce que les valeurs européennes, est-ce qu'elles sont encore un facteur d'adhésion pour les pays de la Méditerranée? Qu'est-ce que vous diriez, Macha Makaïev, pardon?
Écoutez, moi j'avais envie de réagir sur le discours de cynisme que vous rapportiez. Voilà, on a vraiment besoin de la voix des historiens, parce que comparer Saddam Hussein à et faire le parallèle avec Staline, quand on sait ce qu'a produit Staline en millions de morts, mais aussi en désespérance, évidemment, de toutes les classes sociales, dans la disparition de liens profonds pendant 70 ans. Je veux dire, j'étais tellement choquée par ce discours-là que j'avais pas entendu ce parallèle qui avait été fait. Voilà. Ceci dit, je voulais réagir à ça. Après, évidemment, cette absence de discours réciproque, cette incompréhension entre le Nord et le Sud nous renvoie dans une telle confusion, nous autres. Parce que c'est vrai qu'on défend des valeurs, on est des enfants de l'universalité, des valeurs et des droits et des droits de l'homme. Et donc, on est comme pris dans nos propres filets et tout d'un coup, on est dans une opacité. Et cette détresse-là, je crois qu'il faut aussi en parler. Je veux dire, j'ai besoin de formuler l'état de confusion dans lequel tout ça nous jette. On ne voit pas si clair que ça. Et puis, pour revenir au nous qu'on a évoqué, Thierry Fabre et moi-même, ce nous-là, c'est évidemment ce tissage entre le Nord et le Sud. Je veux dire, c'est fini, on ne peut pas penser sans les uns et les autres. Je veux dire, il faut imaginer cette pensée commune. Et c'est parce qu'on n'a pas anticipé cette pensée commune qu'on en est là aussi, qu'on est dans cet état de confusion et de sidération. Mais ce nous-là, il est essentiel. Nous sommes méditerranéens, même si on habite à Roubaix, on est forcément fabriqués par la Méditerranée. Et moi qui suis, pour donner un exemple très précis et qui vaut ce qu'il vaut, mais l'anecdotique dans l'histoire, dans la grande histoire, vaut ce qu'elle vaut. Mais par exemple, ma famille russe qui est arrivée dans les années 20 est arrivée par la Méditerranée. Elle était sur le Rion qui était une espèce d'exodus qui a erré comme ça. Ils étaient faméliques quand ils sont descendus parce qu'on savait pas ce qu'on allait faire de cette poignée de Russes là. Vraiment, qu'est-ce que c'était? Qui les voulait? Personne, ces apatrides. Et puis la France a payé. La France a dit bon, on les prend, puis on les met en Corse. Mais je veux dire, c'est une chose. Cette Méditerranée a toujours généré. Ce lien de vie et de mort entre le monde et ce n'est pas deux mondes. Je veux dire, moi je le vis à Marseille, je le vis dans mes troupes de théâtre, je veux dire, nous sommes tissés nord-sud. Et souvent l'art est plus en avance que la pensée, mais comme on a besoin que la pensée s'éclaircisse.
Malik Haral, vous faisiez référence à la Tunisie. La Tunisie, elle est justement un peu sur ce fil du rasoir, sur les rives sud de la Méditerranée. La Tunisie est vraiment le seul pays qui se réclame un peu des valeurs européennes. Alors, les droits de l'homme, les droits de la femme, la liberté d'expression, la liberté individuelle. Voilà, donc évidemment, faut regarder avec beaucoup d'espoir la Tunisie, mais c'est fragile. Et la Tunisie est un peu isolée.
Oui, alors, plusieurs éléments de réponse à votre question. De façon un peu provocatrice, j'aurais envie de vous demander, méconnent-elles nécessairement d'européennes ces valeurs? Pourquoi ne peuvent-elles pas être adoptées, travaillées, universelles, émergées de la société tunisienne comme on le voit aujourd'hui et avec des difficultés?
Elles sont rejetées par bon nombre des islamismes radicaux, ça paraît évident.
Mais elles sont aussi travaillées et depuis longtemps en termes de pluralisme politique, de travail sur les partis politiques à différentes époques. On n'est pas dans une malédiction de ces valeurs qui n'arriveraient pas à s'imposer. On est dans une histoire qui est compliquée, qui est très heurtée, mais où on a eu des périodes de pluralité, où on a eu des périodes d'expérience politique que parfois, depuis l'Europe, on oublie un peu facilement, parfois parce qu'on était soi-même le colonisateur et que du coup, on les voyait pas très bien. Et même les années...
Thierry Fabre, parce que vous avez fait référence...
Juste pour faire référence au lien avec l'historienne, je traduis qu'en tête, elle a la Nahda, la Renaissance arabe, Tartawi, toutes ces figures qui ont effectivement déjà approprié ces éléments de la modernité, Kawakibi, qui est ici, qui est l'ancêtre de Salam. Et voilà, donc toute cette histoire longue nous tisse, et aujourd'hui, c'est ça qu'il ne faut pas déchirer.
Alors, il fallait cette précision,
mais aussi dans les années 50, des expériences de pluralité politique compliquées sous la domination coloniale, mais qui ont quand même pu exister dans certains pays. En fait, répondre à votre question sur l'adhésion à de possibles valeurs européennes, ça nécessiterait d'interpréter des choses qu'on connaît en fait extrêmement mal. On voit bien comment les gens disent des choses avec leurs pieds, par le déplacement, mais comment interpréter exactement ce qu'ils disent? Pourquoi? Qui quittent-ils ? Sont-ils réellement désespérés ? Sont-ils simplement pauvres ? Comment interpréter le fait que de Syrie quittent des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir comme des migrants, parce que ce sont des classes moyennes, ce sont des gens éduqués, ce sont des ingénieurs. Comment interpréter ? On interprète très mal depuis l'Europe. On interprète, par exemple, de façon extrêmement hostile le fait que parmi eux, il y ait des femmes voilées. On se pose des questions pour savoir si à l'entrée, il faudrait leur faire prêter une sorte de serment laïque avant qu'ils arrivent en Europe. Enfin, il y a des choses qui ne vont pas parce que leurs voix ne sont pas entendues. On connaît mal les aspirations de la jeunesse qui quitte pour l'Europe, de la même façon qu'on connaît encore extrêmement mal les aspirations de la jeunesse tunisienne, des milliers de jeunes tunisiens qui sont partis pour rejoindre Daesh. Quel est leur objectif ? Quels ont leurs espoirs ? Et là, il y a un autre rêve brisé qui est celui des indépendances, qui nous a laissé dans une vacuité face à des générations jeunes que finalement on connaît en réalité très mal, parce que parfois dans beaucoup de pays, c'est le cas notamment au Maghreb, les sciences humaines ne permettent pas d'approcher et de donner voix à ces gens jeunes d'après l'utopie des indépendances.
Thierry Farm, comment l'Europe aujourd'hui, en ce jour du mois de novembre, doit regarder la rive sud de la Méditerranée ? On avait tendance à le regarder avec une certaine appréhension, pour parler d'une certaine peur. Il est à craindre que, passé l'émotion, la colère, la sidération, cette peur reprenne le dessus. Il y a une crainte. Comment regarder la rive sud de la Méditerranée ?
Je disais tout à l'heure que l'objectif de ceux qui ont commis ces actes infâmes, c'est de creuser la faille et de nous faire tomber dans le gouffre. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de pas consentir à de là où ils veulent nous entraîner. C'est pour ça que, oui, il doit y avoir de l'émotion, de l'attention. Oui, il doit y avoir de la sécurité. Oui, il doit y avoir des actes, pour neutraliser ceux qui veulent nous tuer. Ça, il faut pas être enfant de cœur et on n'est pas dans un monde de bisounours. Je veux dire, il y a des rapports de force, il y a des actes de guerre. Donc, voilà. Mais, voilà. Encore une fois, je crois que c'est le général Leclerc qui n'était pas un tendre, qui disait on n'arrête pas des idées avec des balles. Donc il y a un projet commun à bâtir. Et donc ça, je crois que c'est un enjeu de premier plan. Et c'est pour ça que des lieux comme les rencontres d'Averroès, de ce qu'on fait au Mucem, des lieux de culture... C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'Europe devienne une citadelle. Il y a une propension... au sein de l'Europe, de la force politique, culturelle, de s'enfermer en elle-même et de dire c'est pas nous. Eh bien, si on n'arrive pas effectivement à relier plus encore et à sortir, à dépasser la faille, on sera dans des dynamiques de la confrontation qui vont être plus grandes encore, parce qu'il y a effectivement des bombes à retardement en Libye, en Égypte ou autre. Donc il faut prendre la mesure du défi historique qui se joue aujourd'hui en Méditerranée. Et la Méditerranée n'est pas une périphérie de l'Europe, c'est un monde.
Salam Kawakibi, on arrive un peu au terme de cette émission. On a parlé de guerre dans la première partie de cette émission. Une guerre, ça peut se gagner avec des valeurs ?
Entre autres, bien sûr, avec des valeurs. Avec, si on veut s'attaquer, même militairement, il faut s'attaquer à la cause, pas aux conséquences. Là, on a tendance à se préoccuper des conséquences et oublier la cause de la guerre ou des guerres. Il faut aussi avoir une gestion globale de la situation. La gestion sécuritaire est très importante, mais aussi ça doit être une gestion sociétale, économique, culturelle, artistique. Il y a beaucoup de facteurs dans cette gestion qui sont nécessaires pour qu'elle soit productive, pour qu'elle soit salutaire. Parce que si on continue à utiliser l'émotionnel seulement et le sécuritaire seulement, comme on voit de plus en plus, et là je rebondis sur l'Europe citadelle, malheureusement on est en voie de créer cette Europe citadelle avec la montée de l'extrémisme, et l'extrémisme n'est pas propre à la droite, il y a aussi un extrême gauche ou une gauche qui se rallie à ces propos nationalistes médiocres. Quand on voit Monsieur Mélenchon qui se rallie à Madame Le Pen dans le soutien du maintien de Bachar al-Assad, on se demande où sont les limites entre la gauche et l'extrême droite.
Monsieur Makayev, on a commencé avec vous, on va terminer avec vous. C'est normal, on est au Théâtre de la Criée, chez vous. Qu'est-ce qu'il faut craindre? Il faut commencer par quoi?
Il faut commencer par... Il faut commencer par ne pas avoir peur. Voilà. Déjà, premièrement, ne pas avoir peur. Deuxièmement, prendre du recul. Ne pas se laisser... Ne pas faire passer la pensée du côté de la communication. Prendre le temps de réfléchir. Et surtout, faire que les théâtres et toutes ces grandes maisons qui sont là, à l'intérieur des villes, soient vraiment les lieux de l'intelligence où les historiens, les penseurs, les universitaires... soit avec les artistes dans cet échange, parce que nous là aussi il y a quelque chose d'une séparation qui est très très fréquente et qui est très très nocive, c'est-à-dire que il y a quelque chose là aussi qui doit être à nouveau tissé de façon plus forte et plus quotidienne. Mais ça ne s'improvise pas, ça se fait pas comme ça très vite. Et on a déjà beaucoup réfléchi depuis hier soir. On va continuer à réfléchir et à élaborer des moyens de riposte, parce que il n'est pas question d'avoir peur, il n'est pas question de reculer, et nous sommes là ensemble, tous méditerranéens, pour affirmer nos valeurs.
Merci de ces mots d'espoir, Macha Makayev. Merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Victor Hull. Merci aux équipes du Théâtre de la Criée, ici à Marseille. Nous avons enregistré ce samedi cette émission. Grand merci aussi aux équipes des Rencontres d'Averroès, et plus particulièrement à Soisic Vouinchez-Uly, d'Espace Culture Marseille. Plus d'infos sur la page Carrefour de l'Europe, sur le site RFI.fr. Vous pouvez réécouter cette émission avec les applis mobiles de RFI et sur le site RFI.fr. On reste en contact, bien sûr, avec les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Daniel Desesquel, où que vous soyez, à Marseille, à Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.